Le cousin Ponce, 12e partie. Une heure après, Schmuck vit venir dans la chambre Madame Sauvage, suivie d'un homme vêtu de noir et qui paraissait être un ouvrier. « Monsieur, dit-elle, Cantinet a eu la complaisance de vous envoyer monsieur, qui est le fournisseur des bières de la paroisse. » Le fournisseur des bières s'inclina d'un air de commisération et de condoléance, mais, en homme sûr de son fait et qui se sait indispensable, il regarda le mort en connaisseur. « Comment, monsieur, veut-il cela ? En sapin, en bois de chêne simple ou en bois de chêne doublé de plomb ?»« Le bois de chêne doublé de plomb est ce qu'il y a de plus comme il faut. »« Le corps, dit-il, à la mesure ordinaire. » Il tâta les pieds pour toiser le corps. « 1,70 m, ajouta-t-il. « Monsieur pense sans doute à commander le service funèbre à l'église. » Schmuck jeta sur cet homme des regards comme en ont les fous avant de faire un mauvais coup. « Monsieur, vous devriez, dit la sauvage, prendre quelqu'un qui s'occuperait de tous ces détails-là pour vous. » « Oui, dit enfin la victime. Voulez-vous que j'aille vous chercher Monsieur Tabarot, car vous allez avoir bien des affaires sur les bras. Monsieur Tabarot, voyez-vous, c'est le plus honnête homme du quartier. » « Oui, monsieur Tabarot, on m'en a parlé, » répondit Schmuck vaincu. « Eh bien, monsieur va être tranquille et libre de se livrer à sa douleur, après une conférence avec son fondé de pouvoir. » Vers 2 heures, le premier clerc de monsieur Tabarot, jeune homme qui se destinait à la carrière d'huissier, se présenta modestement. La jeunesse a d'étonnants privilèges, elle n'effraie pas. Ce jeune homme, appelé Villemot, s'assit auprès de Schmuck et attendit le moment de lui parler. Cette réserve toucha beaucoup Schmuck. « Monsieur, lui dit-il, je suis le premier clerc de monsieur Tabarot qui m'a confié le soin de veiller ici à vos intérêts et de me charger de tous les détails de l'enterrement de votre ami. Êtes-vous dans cette intention ? Vous ne me sauverez pas la vie. « Car je n'ai pas longtemps à vivre, mais vous me laisserez tranquille. »« Oh, vous n'aurez pas un dérangement, » répondit Villemot. « Eh bien, que faut-il faire pour cela ?»« Signez ce papier où vous nommez Monsieur Tabarot votre mandataire, relativement à toutes les affaires de la succession. »« Bien, tonnez, » dit l'Allemand en voulant signer sur le champ. « Non. » « Je dois vous lire l'acte. »« Lisez. » Schmuck ne prêta pas la moindre attention à la lecture de cette procuration générale, et il la signa. Le jeune homme prit les ordres de Schmuck pour le convoi, pour l'achat du terrain où l'Allemand voulut avoir sa tombe, et pour le service de l'église, en lui disant qu'il n'éprouverait plus aucun trouble ni aucune demande d'argent. « Pour avoir la tranquillité, je donnerai tout ce que je possède, » dit l'infortuné, qui de nouveau s'agenouilla devant le corps de son ami. Fraisier triomphait. Le légataire ne pouvait pas faire un mouvement hors du cercle où il le tenait enfermé par la sauvage et par Villemot. Il n'est pas de douleur que le sommeil ne sache vaincre. Aussi, vers la fin de la journée, la sauvage trouva-t-elle Schmuck étendu au bas du lit où gisait le corps de Ponce, et dormant. Elle l'emporta, le coucha, l'arrangea maternellement dans son lit, et l'Allemand y dormit jusqu'au lendemain. Quand Schmuck s'éveilla, c'est-à-dire quand, après cette trêve, il fut rendu au sentiment de ses douleurs, le corps de Ponce était exposé sous la porte cochère, dans la chapelle ardente à laquelle ont droit les convois de 3e classe. Il chercha donc vainement son ami dans cet appartement, qui lui parut immense, où il ne trouva rien que d'affreux souvenirs. La sauvage, qui gouvernait Schmuck avec l'autorité d'une nourrice sur son marmot, le força de déjeuner avant d'aller à l'église. Pendant que cette pauvre victime se contraignait à manger, la sauvage lui fit observer, avec des lamentations dignes de Jérémie, qu'il ne possédait pas d'habit noir. La garde-robe de Schmuck, entretenue par Cibot, en était arrivée, avant la maladie de Ponce, comme le dîner à sa plus simple expression, à deux pantalons et deux redingotes. Vous allez aller comme vous êtes à l'enterrement de monsieur? C'est une monstruosité à vous faire honnir par tout le quartier. Et comment voulez-vous que j'y aille? Mais en deuil? Le deuil? Les convenances? Les convenances, je me fiche bien de toutes ces bêtises-là, dit le pauvre homme, arrivé au dernier degré d'exaspération où la douleur puisse porter une âme d'enfant. Mais c'est un monstre d'ingratitude, dit la sauvage en se tournant vers un monsieur qui se montra soudain dans l'appartement et qui fit frémir Schmuck. Ce fonctionnaire, magnifiquement vêtu de drap noir, en culotte noire, en bas de soie noire, à manchettes blanches, décorées d'une chaîne d'argent à laquelle pendait une médaille, cravaté d'une cravate de mousseline blanche très correcte et en gants blancs. Ce type officiel, frappé au même coin pour les douleurs publiques, tenait à la main une baguette en ébène, un signe de ses fonctions, et sous le bras gauche, un tricorne à cocarde tricolore. « Je suis le maître des cérémonies, » dit ce personnage d'une voix douce. Habitué par ses fonctions à diriger tous les jours des convois et à traverser toutes les familles plongées dans une même affliction, réelle ou feinte, cet homme, ainsi que tous ses collègues, parlait bas et avec douceur. Il était décent, poli, convenable par état, comme une statue représentant le génie de la mort. Cette déclaration causa un tremblement nerveux à Schmuck, comme s'il eût vu le bourreau. « Monsieur est le fils, le frère, le père du défunt ?» demanda l'homme officiel. « Je suis tout cela, et puis je suis son ami !» dit Schmuck à travers un torrent de larmes. « Êtes-vous l'héritier ?» demanda le maître des cérémonies. « L'héritier !» répéta Schmuck. « Tout m'était calme au monde !» Et Schmuck reprit l'attitude que lui donnait sa douleur morne. « Où sont les parents, les amis ?» demanda le maître des cérémonies. « Les voilà tous !» s'écria Schmuck en montrant les tableaux et les curiosités. « Jamais cela n'ont fait souffrir mon bon Ponce. Voilà tout ce qu'il aimait avec moi !»« Il est fou, monsieur !» dit la sauvage au maître des cérémonies. « Allez, c'est inutile de l'écouter. » Schmuck s'était assis et avait repris sa contenance d'idiot en essuyant machinalement ses larmes. En ce moment, Villemot, le premier clerc de maître Tabarot, parut, et le maître des cérémonies, reconnaissant celui qui était venu commander le convoi, lui dit « Eh bien, monsieur, il est temps de partir, le char est arrivé. » « Mais j'ai rarement vu de convoi pareil à celui-là. Où sont les parents, les amis ?»« Nous n'avons pas eu beaucoup de temps, » reprit M. Villemot. « Monsieur est plongé dans une telle douleur qu'il ne pensait à rien. Mais il n'y a qu'un parent. » Le maître des cérémonies regarda Schmuck d'un air de pitié, car cet expert en douleur distinguait bien le vrai du faux, et il vint près de Schmuck. « Allons, mon cher monsieur, du courage. Songez à honorer la mémoire de votre ami. Nous avons oublié d'envoyer des billets de faire part, mais j'ai eu le soin d'envoyer un express à monsieur le président de Marville, le seul parent de qui je vous parlais. Il n'y a pas d'amis. Je ne crois pas que les gens du théâtre, où le défunt était chef d'orchestre, viennent. Mais monsieur est, je crois, légataire universel. » « Il doit alors conduire le deuil, » dit le maître des cérémonies. « Vous n'avez pas d'habit noir ? demanda le maître des cérémonies en avisant le costume de Schmuck.
Je suis tout en noir à l'intérieur,
dit le pauvre Allemand d'une voix déchirante.
Et si bien en noir que je sens la mort en moi. Dieu me fera la grâce de m'unir à mon ami dans la tombe, et je l'en remercie.
Et il joignit les mains. Je l'ai déjà dit à notre administration, qui a déjà tant introduit de perfectionnement, reprit le maître des cérémonies en s'adressant à Villemot. Elle devrait avoir un vestiaire et louer des costumes d'héritier. C'est une chose qui devient de jour en jour plus nécessaire. Mais puisque monsieur hérite, il doit prendre le manteau de deuil, et celui que j'ai apporté l'enveloppera tout entier, si bien qu'on ne s'apercevra pas de l'inconvenance de son costume.
« Voulez-vous avoir la bonté de vous lever ?» dit-il à Schmuck.
Schmuck se leva, mais il vacilla sur ses jambes.
« Tenez-le, »
dit le maître des cérémonies au premier clerc, « puisque vous êtes son fondé de pouvoir. » Villemot soutint Schmuck en le prenant sous les bras. Et alors, le maître des cérémonies saisit cet ample et horrible manteau noir que l'on met aux héritiers pour suivre le char funèbre de la maison mortuaire à l'église, en le lui attachant par des cordons de soie noire sous le menton. Et Schmuck fut paré en héritier.
Maintenant, il nous survient une grande difficulté, dit le maître des cérémonies.
Nous avons les quatre glands du poil à garnir. S'il n'y a personne, qui les tiendra?
Voici 2 heures et demie, dit-il en consultant sa montre. On nous attend à l'église.
Ah, voici Fraisier, s'écria fort imprudemment Villemot. Mais personne ne pouvait recueillir cet aveu de complicité.
Qui est ce monsieur? Demanda le maître des cérémonies.
Oh, c'est la famille.
« Quelle famille ?»«
La famille des hérités. C'est le fondé de pouvoir de monsieur le président Camusot. »«
Bien !» dit le maître des cérémonies avec un air de satisfaction. « Nous aurons au moins 2 glands de tenue, l'un par vous et l'autre par lui. »
Le maître des cérémonies, heureux d'avoir 2 glands garnis, alla prendre 2 magnifiques paires de gants de daim blanc et les présenta tour à tour à Fraisier et à Villemot d'un air poli.
« Ces messieurs voudront bien prendre chacun un des coins du poil, » dit-il.
Fraisier, tout en noir, mis avec prétention, cravate blanche, l'air officiel, faisait frémir. Il contenait 100 dossiers de procédure.
« Volontiers, monsieur, » dit-il.
« S'il pouvait nous arriver seulement 2 personnes, » dit le maître des cérémonies, les 4 glands seraient garnis. » En ce moment, arriva l'infatigable courtier de la maison sonnée, suivi du seul homme qui se souvint de Ponce, qui pensa à lui rendre les derniers devoirs. Cet homme était un gagiste du théâtre, le garçon chargé de mettre les partitions sur les pupitres à l'orchestre, et à qui Ponce donnait tous les mois 1 pièce de 5 francs en le sachant père de famille.
« Ah, Topinard !»
s'écria Schmuck en reconnaissant le garçon.
« Tu aimes Ponce, toi !»«
Mais, monsieur, je suis venu tous les jours le matin savoir des nouvelles de monsieur. »«
Tous les jours, pauvre Topinard !»
dit Schmuck en serrant la main au garçon de théâtre.
« Mais on me prenait sans doute pour un parent et on me recevait bien mal. » J'avais beau dire que j'étais du théâtre et que je venais savoir les nouvelles de monsieur Ponce, on me disait qu'on connaissait ces couleurs-là. Je demandais à voir ce pauvre cher malade, mais on ne m'a jamais laissé monter.
L'infâme Zibot, dit Schmuck en serrant sur son cœur la main calleuse du garçon de théâtre.
C'était le roi des hommes, ce brave monsieur Ponce. Tous les mois, il me donnait 100 sous. Il savait que j'ai 3 enfants et 1 femme. Ma femme est à l'église. Je partagerai mon pain avec toi,
s'écria Schmuck dans la joie d'avoir près de lui un homme qui aimait Ponce.
Monsieur veut-il prendre un des glands du poil?
Dit le maître des cérémonies. Nous aurons ainsi les 4. Le maître des cérémonies avait facilement décidé le courtier de la maison sonnée à prendre un des glands, surtout en lui montrant la belle paire de gants, qui, selon les usages, devait lui rester.
« Voici 10h15, il faut absolument descendre, l'église attend !»
dit le maître des cérémonies. Et ces 6 personnes se mirent en marche à travers les escaliers.
« Fermez bien l'appartement et restez-y !»
dit l'atroce fraisier aux 2 femmes qui restaient sur le palier.
« Surtout si vous voulez être gardienne, madame Cantinet.
Ah, c'est 40 sous par jour !»
Par un hasard qui n'a rien d'extraordinaire à Paris, il se trouvait 2 catafalques sous la porte cochère, et conséquemment 2 convois, celui de Cibot, le défunt concierge, et celui de Ponce.
Personne ne venait rendre aucun témoignage d'affection au brillant catafalque de l'ami des arts, et tous les portiers du voisinage affluaient et aspergeaient la dépouille mortelle du portier d'un coup de goupillon. Ce contraste de la foule accourue au convoi de Cibot et de la solitude dans laquelle restait Ponce eut lieu non seulement à la porte de la maison, mais encore dans la rue, où le cercueil de Ponce ne fut suivi que par Schmuck, que soutenait un croque-mort, car l'héritier défaillait à chaque pas. De la rue de Normandie à la rue d'Orléans, où l'église Saint-François est située, les 2 convois allèrent entre 2 haies de curieux. Car, ainsi qu'on l'a dit, tout fait événement dans ce quartier. On remarquait donc la splendeur du char blanc d'où pendait un écusson sur lequel était brodé un grand P, et qui n'avait qu'un seul homme à sa suite. Tandis que le simple char, celui de la dernière classe, était accompagné d'une foule immense. Heureusement, Schmuck, hébété par le monde aux fenêtres et par la haie que formaient les badauds, n'entendait rien et ne voyait ce concours de personnes qu'à travers le voile de ses larmes.
« Ah, c'est une casse-noisette !» disait l'un.
« Le musicien, vous savez !»«
Quelles sont donc les personnes qui tiennent les cordons ?»«
Bah, des comédiens !»«
Tiens, voilà le convoi de ce pauvre père Cibot. En voilà un travailleur de moins. Quel dévorant !»«
Il ne sortait jamais, cet homme-là !»
Jamais il n'a fait le lundi.
Aimait-il sa femme?
En voilà une malheureuse.
Rémonenque était derrière le char de sa victime et recevait des compliments de condoléance sur la perte de son voisin. Ces 2 convois arrivèrent à l'église où Cantinet, d'accord avec le Suisse, eut soin qu'aucun mendiant ne parlât à Schmuck. Villemot avait promis à l'héritier qu'il serait tranquille, et il satisfaisait à toutes les dépenses, en veillant sur son client. Le modeste corbillard de Cibot, escorté de 60 à 80 personnes, fut accompagné par tout ce monde jusqu'au cimetière. À la sortie de l'église, le convoi de Ponce eut 4 voitures de deuil, une pour le clergé, les 3 autres pour les parents. Mais une seule fut nécessaire, car le courtier de la maison Sonnet était allé, pendant la messe, prévenir M. Sonnet du départ du convoi, afin qu'il pût présenter le dessin et le devis du monument au légataire universel au sortir du cimetière. Fraisier, Villemot, Schmuck et Topinard tinrent dans une seule voiture. Les 2 autres, au lieu de retourner à l'administration, allèrent à vide au Père Lachaise. Cette course inutile de voitures à vide a lieu souvent. Lorsque les morts ne jouissent d'aucune célébrité, n'attirent aucun concours de monde, il y a toujours trop de voitures. Les morts doivent avoir été bien aimés dans leur vie pour qu'à Paris, où tout le monde voudrait trouver une 25e heure à chaque journée, on suive un parent ou un ami jusqu'au cimetière. Mais les cochers perdraient leur pourboire s'ils ne faisaient pas leur besogne. Aussi, pleines ou vides, les voitures vont-elles à l'église, au cimetière, et reviennent-elles à la maison mortuaire où les cochers demandent un pourboire. On ne se figure pas le nombre des gens pour qui la mort est un abreuvoir. Le bas clergé de l'église, les pauvres, les croque-morts, les cochers,
Les fossoyeurs, ces natures spongieuses, se retirent gonflées en se plongeant dans un corbillard. De l'église, où l'héritier, à sa sortie, fut assailli par une nuée de pauvres, aussitôt réprimés par le Suisse, jusqu'au Père Lachaise, le pauvre Schmuck alla comme les criminels, allait du palais à la place de Grève. Il menait son propre convoi, tenant dans sa main la main du garçon Topinard, le seul homme qui eut dans le cœur un vrai regret de la mort de Ponce. Topinard, excessivement touché de l'honneur qu'on lui avait fait en lui confiant un des cordons du poêle, et content d'aller en voiture, possesseur d'une paire de gants, commençait à entrevoir dans le convoi de Ponce une des grandes journées de sa vie. Abîmé de douleur, soutenu par le contact de cette main à laquelle répondait un cœur, Schmuck se laissait rouler absolument comme ces malheureux veaux conduits en charrette à l'abattoir. Sur le devant de la voiture se tenaient Fraisier et Villemot. Or, ceux qui ont eu le malheur d'accompagner beaucoup des leurs au champ du repos savent que toute hypocrisie cesse en voiture durant le trajet, qui souvent est fort long de l'église au cimetière de l'Est, celui des cimetières parisiens où se sont donné rendez-vous toutes les vanités, tous les luxes, et si riches en monuments somptueux. Les indifférents commencent la conversation, et les gens les plus tristes finissent par les écouter et se distraire. « Monsieur le président était déjà parti pour l'audience, » disait Fraisier à Villemot. Et je n'ai pas trouvé nécessaire d'aller l'arracher à ses occupations au palais. Il serait toujours venu trop tard. Comme il est l'héritier naturel et légal, mais qu'il est déshérité au profit de M. Schmuck, j'ai pensé qu'il suffisait à son fondé de pouvoir d'être ici. » Topinard prêta l'oreille. « Qu'est-ce donc que ce drôle qui tenait le quatrième gland ?» demanda Fraisier à Villemot. C'est le courtier d'une maison qui fait le monument funéraire et qui voudrait obtenir la commande d'une tombe où il se propose de sculpter trois figures en marbre, la musique, la peinture et la sculpture versant des pleurs sur le défunt. « C'est une idée, » reprit Fraisier. « Le bonhomme mérite bien cela. Mais ce monument-là coûtera bien 7 à 8 000 francs. »« Oh oui !»« Si Monsieur Schmuck fait la commande, » ça ne peut pas regarder la succession, car on pourrait absorber une succession par de pareils frais. Ce serait un procès, mais on le gagnerait. Eh bien, reprit Fraisier, ça le regardera donc. C'est une bonne farce à faire à ces entrepreneurs, dit Fraisier à l'oreille de Villemot, car si le testament est cassé, ce dont je réponds, ou s'il n'y avait pas de testament, qui est-ce qui les paierait? Villemot eut un rire de singe. Le premier clerc de Tabarot et l'homme de loi se parlèrent alors à voix basse et à l'oreille. Mais, malgré le roulis de la voiture et tous les empêchements, le garçon de théâtre, habitué à tout deviner dans le monde des coulisses, devina que ces deux gens de justice méditaient de plonger le pauvre Allemand dans des embarras. Et il finit par entendre le mot significatif de Clichy. Dès lors, le digne et honnête serviteur du monde comique résolut de veiller sur l'ami de Ponce. Au cimetière, où, par les soins du courtier de la maison sonnée, Villemot avait acheté 3 mètres de terrain à la ville, en annonçant l'intention d'y construire un magnifique monument, Schmuck fut conduit par le maître des cérémonies, à travers une foule de curieux, à la fosse où l'on allait descendre Ponce. Mais, à l'aspect de ce trou carré au-dessus duquel 4 hommes tenaient avec des cordes la bière de Ponce sur laquelle le clergé disait sa dernière prière, l'Allemand fut pris d'un tel serrement de cœur qu'il s'évanouit. Topinard, aidé par le courtier de la maison Sonnet et par M. Sonnet lui-même, emporta le pauvre Allemand dans l'établissement du marbrier, où les soins les plus empressés et les plus généreux lui furent prodigués par Madame Sonnet et par Madame Vitelot, épouse de l'associé de M. Sonnet. Topinard resta là, car il avait vu Fraisier,
dont la figure lui semblait patibulaire, s'entretenir avec le courtier de la maison sonnée. Au bout d'une heure, vers 2h30, le pauvre innocent allemand recouvra ses sens. Schmuck croyait rêver depuis 2 jours. Il pensait qu'il se réveillerait et qu'il trouverait Ponce vivant. Il eut tant de serviettes mouillées sur le front, on lui fit respirer tant de sels et de vinaigre qu'il ouvrit les yeux. Madame Sonnet força Schmuck à boire un bon bouillon gras, car on avait mis le pot-au-feu chez les marbriers. Ça ne nous arrive pas souvent de recueillir ainsi des clients qui sentent aussi vivement que cela, mais ça se voit encore tous les 2 ans. Enfin Schmuck parla de regagner la rue de Normandie. « Monsieur, dit alors Sonnet, voici le dessin qu'a fait Vitelot exprès pour vous. Il a passé la nuit, mais il a été bien inspiré. Ça sera beau. » « Ça sera l'un des plus beaux du Père Lachaise, dit la petite Madame Sonnet. « Mais vous devez honorer la mémoire d'un ami qui vous a laissé toute sa fortune. » Ce projet, censé fait exprès, avait été préparé pour de Marsay, le fameux ministre. Mais la veuve avait voulu confier ce monument à Stidmann. Le projet de ces industriels fut alors rejeté, car on eut horreur d'un monument de pacotille. Ces 3 figures représentaient alors les journées de juillet où se manifesta ce grand ministre. Depuis, avec des modifications, Sonnet et Vitelot avaient fait des 3 glorieuses, l'armée, la finance et la famille, pour le monument de Charles Keller, qui fut encore exécuté par Stidmann. Depuis 11 ans, ce projet était adapté à toutes les circonstances de famille. Mais, en le calquant, Vitelot avait transformé les 3 figures en celles des génies de la musique, de la sculpture et de la peinture. « Ce n'est rien si l'on pense aux détails et aux constructions, mais en 6 mois, nous y arriverons, » dit Vitelot. « Monsieur, voici le devis et la commande, 7 000 francs, non compris les praticiens. » « Si monsieur veut du marbre, » dit Sonnet, plus spécialement marbrier, « ce sera 12 000 francs, et monsieur s'immortalisera avec son ami. » « Je viens d'apprendre que le testament sera attaqué, » dit Topinard à l'oreille de Vitelot, « et que les héritiers rentreront dans leur héritage. Allez voir, monsieur le président Camusot, car ce pauvre innocent n'aura pas un liard. » « Vous nous amenez toujours des clients comme cela, » dit Madame Vitelot au courtier en commençant une querelle. Topinard reconduisit Schmuck à pied rue de Normandie, car les voitures de deuil s'y étaient dirigées. « Ne me quittez pas, » dit Schmuck à Topinard. Topinard voulait s'en aller, après avoir remis le pauvre musicien entre les mains de la dame sauvage. « Il est 4 heures, mon cher monsieur Schmuck, et il faut que j'aille dîner. Ma femme, qui est ouvreuse, ne comprendrait pas ce que je suis devenue. Vous savez, le théâtre ouvre à 5h15. »« Oui, je le sais, mais songez que je suis seule sur la terre, sans saint une amie. Vous qui avez pleuré, Ponce, éclairez-moi. Je suis tant à une nouille provente, et Ponce m'a dit que j'étais entourée de coquins. » « Je m'en suis déjà bien aperçu. Je viens de vous empêcher d'aller coucher à Clichy. »«
Clichy ? » s'écria Schmuck. « Je ne comprends pas. »«
Pauvre homme, eh bien, soyez tranquille. Je viendrai vous voir. Adieu. »«
Adieu, à bientôt !»
dit Schmuck en tombant quasi mort de lassitude.
« Adieu, monsieur !»
dit Madame Sauvage à Topinard, d'un air qui frappa le gagiste. Oh, qu'avez-vous donc, la bonne? Dit railleusement le garçon de théâtre. Vous vous posez là comme un traître de mélodrame.
Traître vous-même, de quoi vous mêlez-vous ici? N'allez-vous pas vouloir faire les affaires de monsieur? Et le carotté?
Le carotté, servante, reprit superbement Topinard. Je ne suis qu'un pauvre garçon de théâtre. « Mais je tiens aux artistes, et apprenez que je n'ai jamais rien demandé à personne. Vous a-t-on demandé quelque chose? Vous doit-on? Eh, la vieille !»
« Vous êtes garçon de théâtre et vous vous nommez... » demanda la virago.
« Topinard, pour vous servir. »«
Bien des choses chez vous, » dit la sauvage. « Et mes compliments à mesdames, si monsieur est marié. C'est tout ce que je voulais savoir. »«
Qu'avez-vous donc, ma belle ?»
dit madame Cantinet qui survint.
« J'ai, ma petite, que vous allez rester là, surveiller le dîner. Je vais donner un coup de pied jusque chez monsieur. »
« Il est en bas. Il cause avec cette pauvre madame Cibot, qui pleure toutes les larmes de son corps, » répondit la Cantinet.
La sauvage dégringola par les escaliers avec une telle rapidité que les marches tremblaient sous ses pieds.
« Monsieur, » dit-elle à Fraisier en l'attirant à elle à quelques pas de madame Cibot.
Et elle désigna Topinard au moment où le garçon de théâtre passait, fier d'avoir déjà payé sa dette à son bienfaiteur, en empêchant, par une ruse inspirée par les coulisses, où tout le monde a plus ou moins d'esprit drôlatique, l'ami de Ponce de tomber dans un piège. Aussi le gagiste se promettait-il de protéger le musicien de son orchestre contre les pièges qu'on tendrait à sa bonne foi.
« Vous voyez ce petit misérable ? C'est une espèce d'honnête homme qui veut fourrer son nez dans les affaires de monsieur Schmuck.
Qui est-ce ? Demanda Fraisier.
Oh, un rien du tout.
Il n'y a pas de rien du tout en affaire.
Eh, dit-elle, c'est un garçon de théâtre, nommé Topinard.
Bien, madame Sauvage, continuez ainsi. Vous aurez votre débit de tabac.
Et Fraisier reprit la conversation avec madame Cibot.
« Je dis donc, ma chère cliente, que vous n'avez pas joué franc jeu avec nous, et que nous ne sommes tenus à rien avec un associé qui nous trompe. »«
Eh, en quoi vous ai-je trompé ? »
dit la Cibot en mettant les poings sur ses hanches.
« Croyez-vous que vous me ferez trembler avec vos regards de verju et vos airs de givre ? Vous cherchez de mauvaises raisons pour vous débarrasser de vos promesses, et vous vous dites honnête homme. Savez-vous ce que vous êtes ? Vous êtes une canaille. Oui, oui, grattez-vous le bras, mais empochez ça.
Pas de mots, pas de colère, mamie, dit Fraisier. Écoutez-moi, vous avez fait votre pelote. Ce matin, pendant les préparatifs du convoi, j'ai trouvé ce catalogue, en double, écrit tout entier de la main de monsieur Ponce. Et par hasard, mes yeux sont tombés sur ceci. Et il lut en ouvrant le catalogue manuscrit. Numéro 7. Magnifique portrait peint sur marbre par Sébastien Del Piombo en 1546, vendu par une famille qui l'a fait enlever de la cathédrale de Terni. Ce portrait, qui avait pour pendant un évêque, acheté par un Anglais, représente un chevalier de Malte en prière et se trouvait au-dessus du tombeau de la famille Rossi. Sans la date, on pourrait attribuer cette œuvre à Raphaël. Ce morceau me semble supérieur au portrait de Baccio Bandinelli, du musée, qui est un peu sec, tandis que ce chevalier de Malte est d'une fraîcheur due à la conservation de la peinture sur la Lavagna, ardoise. « En regardant, reprit Fraisier, à la place numéro 7, j'ai trouvé un portrait de dame, signé Chardin, sans numéro 7. »
Pendant que le maître des cérémonies complétait son nombre de personnes pour tenir les cordons du poêle, j'ai vérifié les tableaux. Et il y a 8 substitutions de toiles ordinaires et sans numéro, à des œuvres indiquées comme capitales par feu monsieur Ponce, et qui ne se trouvent plus. Et enfin, il manque un petit tableau sur bois, de Mezzu, désigné comme un chef-d'œuvre.
Est-ce que j'étais gardienne de tableau, moi ?
Dit la Cibot.
« Non, mais vous étiez femme de confiance, faisant le ménage et les affaires de monsieur Ponce. Et s'il y a vol ?»«
Vol ! Apprenez, monsieur, que les tableaux ont été vendus par monsieur Schmuck, d'après les ordres de monsieur Ponce, pour subvenir à ses besoins. »«
À qui ?»«
À messieurs Elie Magus et Raymond Anck. »«
Combien ?
Mais je ne m'en souviens pas. »«
Écoutez, ma chère madame Cibot, vous avez fait votre pelote, elle est dodue, reprit Fraisier. J'aurai l'œil sur vous, je vous tiens. Servez-moi, je me tairai. Dans tous les cas, Vous comprenez que vous ne devez compter sur rien de la part de Monsieur le Président Camusot, du moment où vous avez jugé convenable de le dépouiller.
Je savais bien, mon cher Monsieur Fraisier, que cela tournerait en os de boudin pour moi,
répondit la Cibot, adoucie par les mots.
Je me tairai.
Voilà, dit Rémoninck en survenant, que vous cherchez querelle à madame.
Ça n'est pas bien.
La vente des tableaux a été faite de gré à gré avec Monsieur Ponce, entre Monsieur Magus et moi, que nous sommes restés 3 jours avant de nous accorder avec le défunt qui rêvait sur ses tableaux. Nous avons des quittances en règle, et si nous avons donné, comme cela se fait, quelques pièces de 40 francs à madame, elle n'a eu que ce que nous donnons dans toutes les maisons bourgeoises où nous concluons un marché.
Ah, mon cher monsieur, si vous croyez tromper une femme sans défense, vous n'en serez pas le bon marchand.
Entendez-vous, monsieur le faiseur d'affaires?
Monsieur Magus est le maître de la place, et si vous ne filez pas doux avec madame, si vous ne lui donnez pas ce que vous lui avez promis, je vous attends à la vente de la collection. Vous verrez ce que vous perdrez si vous avez contre vous Monsieur Magus et moi, qui saurons ameuter les marchands. Au lieu de 700 à 800 000 francs, vous ne ferez seulement pas 200 000 francs.
C'est bon, nous verrons. Nous ne vendrons pas,
dit Fraisier.
Ou nous vendrons à Londres.
Nous connaissons Londres, dit Rémoninck, et Monsieur Magus y est aussi puissant qu'à Paris.
Adieu, madame, je vais éplucher vos affaires, dit Fraisier.
À moins que vous ne m'obéissiez toujours, ajouta-t-il.
Petit filou!
Prenez garde, dit Fraisier, je vais être juge de paix.
On se sépara sur des menaces dont la portée était bien appréciée de part et d'autre.
Merci, Rémoninck, dit la Cibot. C'est bien bon pour une pauvre veuve de trouver un défenseur.
Le soir, vers 10 heures, au théâtre, Gaudissart manda dans son cabinet le garçon de théâtre de l'orchestre. Gaudissart, debout devant la cheminée, avait pris une attitude napoléonienne, contractée depuis qu'il conduisait tout un monde de comédiens, de danseurs, de figurants, de musiciens, de machinistes, et qu'il traitait avec des auteurs. Il passait habituellement sa main droite dans son gilet en tenant sa bretelle gauche, et il se mettait la tête de 3/4 en jetant son regard dans le vide.
« Ah ça, Topinard, avez-vous des rentes ?»«
Non, monsieur. »«
Vous cherchez donc une place meilleure que la vôtre ?»
demanda le directeur.
« Non, monsieur, »
répondit le gagiste en devenant blême.
« Que diable ! Ta femme est ouvreuse aux premières. J'ai su respecter en elle mon prédécesseur déchu. Je t'ai donné l'emploi de nettoyer les quinquets des coulisses pendant le jour. Enfin, tu es attaché aux partitions. Ce n'est pas tout. Tu as des feux de 20 sous pour faire les monstres et commander les diables quand il y a des enfers. C'est une position enviée par tous les gagistes. Et tu es jalousé, mon ami, au théâtre, où tu as des ennemis.
Des ennemis ?
Dit Topinard. Et tu as 3 enfants, dont l'aîné joue les rôles d'enfant avec des feux de 50 centimes.
Monsieur, laisse-moi parler,
dit Gaudissart d'une voix foudroyante. Dans cette position-là, tu veux quitter le théâtre.
Monsieur, tu veux te mêler de faire des affaires, de mettre ton doigt dans des successions.
Mais malheureux, tu serais écrasé comme un œuf. J'ai pour protecteur son excellence Monseigneur le comte Popinot, homme d'esprit et d'un grand caractère, que le roi a eu la sagesse de rappeler dans son conseil. Cet homme d'État, ce politique supérieur, je parle du comte Popinot, a marié son fils aîné à la fille du président de Marville, un des hommes les plus considérables et les plus considérés de l'ordre supérieur judiciaire, un des flambeaux de la cour au palais. Tu connais le palais? Eh bien, il est l'héritier de son cousin Ponce, notre ancien chef d'orchestre, au convoi de qui tu es allé ce matin. Je ne te blâme pas d'être allé rendre les derniers devoirs à ce pauvre homme, mais tu ne resterais pas en place si tu te mêlais des affaires de ce digne monsieur Schmuck, à qui je veux beaucoup de bien,
mais qui va se trouver en délicatesse avec les héritiers de Ponce. Et comme cet Allemand m'aide peu, que le président et le comte Popinot me sont de beaucoup, je t'engage à laisser ce digne Allemand se dépêtrer tout seul de ses affaires. Il y a un dieu particulier pour les Allemands, et tu serais très mal en sous-dieu. Vois-tu, reste gagiste. Tu ne peux pas faire mieux.
Suffit, monsieur le directeur, dit Topinard navré.
Schmuck, qui s'attendait à voir le lendemain ce pauvre garçon de théâtre, le seul être qui eût pleuré Ponce, perdit ainsi le protecteur que le hasard lui avait envoyé. Le lendemain, le pauvre Allemand sentit à son réveil l'immense perte qu'il avait faite en trouvant l'appartement vide. La veille et l'avant-veille, les événements et les tracas de la mort avaient produit autour de lui cette agitation, ce mouvement où se distraient les yeux. Mais le silence qui suit le départ d'un ami, d'un père, d'un fils, d'une femme aimée, pour la tombe, le terne et froid silence du lendemain, est terrible, il est glacial. Ramené par une force irrésistible dans la chambre de Ponce, le pauvre homme ne put en soutenir l'aspect. Il recula, revint s'asseoir dans la salle à manger, où Madame Sauvage servait le déjeuner. Schmuck s'assit et ne put rien manger. Tout à coup, une sonnerie assez vive retentit, et trois hommes noirs apparurent, à qui Madame Cantinet et Madame Sauvage laissèrent le passage libre. C'était d'abord Monsieur Vitel, le juge de paix, et monsieur son greffier. Le troisième était fraisier, plus sec, plus âpre que jamais, en ayant subi le désappointement d'un testament en règle qui annulait l'arme puissante si audacieusement volée par lui. « Nous venons, monsieur, dit le juge de paix avec douceur à Schmuck, à poser les scellés ici. » Schmuck, pour qui ces paroles étaient du grec, regarda d'un air effaré les trois hommes. « Nous venons, à la requête de M. Fraisier, avocat, mandataire de M. Camusot de Marville, héritier de son cousin, le feu sieur Ponce, » ajouta le greffier. « Les collections sont là, dans ce vaste salon, et dans la chambre à coucher du défunt, » dit Fraisier. « Eh bien, passons. Pardon, monsieur. Déjeuner. Faites, » dit le juge de paix. L'invasion de ces trois hommes noirs avait glacé le pauvre Allemand de terreur. « Monsieur, dit Fraisier en dirigeant sur Schmuck un de ces regards venimeux qui magnétisait ses victimes comme une araignée magnétise une mouche. Monsieur, qui a su faire faire à son profit un testament par devant notaire, devait bien s'attendre à quelque résistance de la part de la famille. Une famille ne se laisse pas dépouiller par un étranger sans combattre. Et nous verrons, monsieur, qui l'emportera de la fraude, de la corruption ou de la famille. Nous avons le droit, comme héritier, de requérir la position des scellés. Les scellés seront mis, et je veux veiller à ce que cet acte conservatoire soit exercé avec la dernière rigueur. Et il le sera.
« mon Dieu, qu'ai-je fait au ciel ? » dit l'innocent Schmuck.
« On jase beaucoup de vous dans la maison, » dit la sauvage. « Il est venu, pendant que vous dormiez, un petit jeune homme, habillé tout en noir, un freluqué, le premier clerc de Monsieur Hannequin, et il voulait vous parler à toute force. Mais comme vous dormiez et que vous étiez si fatigué de la cérémonie d'hier, je lui ai dit que vous aviez signé un pouvoir à Monsieur Villemot, le premier clerc de Tabarot, et qu'il eût, si c'était pour affaire, à l'aller voir. »
« Ah, tant mieux, qu'a dit le petit jeune homme. Je m'entendrai bien avec lui. Nous allons déposer le testament au tribunal, après l'avoir présenté au président. Pour lors, je l'ai prié de nous envoyer M. Villemot dès qu'il le pourrait.
« Soyez tranquille, mon cher monsieur, dit la sauvage. Vous aurez des gens pour vous défendre, et l'on ne vous mangera pas la laine sur le dos. Vous allez avoir quelqu'un qui a bec et ongle. M. Villemot va leur dire leur fait. Moi, je me suis déjà mise en colère après cette affreuse gueuse de Mame Cibot. Une portière qui se mêle de juger ses locataires,
et qui soutient que vous filoutez cette fortune aux héritiers, que vous avez chambré M. Ponce, que vous l'avez mécanisé, qu'il était fou allié. Je vous l'ai remouché de la belle manière, la scélérate. Vous êtes une voleuse et une canaille, que je lui ai dit, et vous irez au tribunal pour tout ce que vous avez volé à vos messieurs. Et elle a tué sa gueule.
Monsieur, dit le greffier en venant chercher Schmuck, veut-il être présent à la position des scellés dans la chambre mortuaire?
Faites, faites, dit Schmuck. Je présume que je pourrai mourir tranquille.
On a toujours le droit de mourir, dit le greffier en riant, et c'est là notre plus forte affaire que les successions. Mais j'ai rarement vu des légataires universels suivre les testateurs dans la tombe.
J'irai, moi,
dit Schmuck, qui se sentit après tant de coups des douleurs intolérables au cœur.
Ah, voilà Monsieur Villemot, s'écria la sauvage.
Monsieur Villemot, dit le pauvre Allemand.
Représentez-moi.
J'accours, dit le premier clerc. Je viens vous apprendre que le testament est tout à fait en règle et sera certainement homologué par le tribunal qui vous enverra en possession. Vous aurez une belle fortune.
Moi, une belle fortune,
s'écria Schmuck au désespoir d'être soupçonné de cupidité. En attendant, dit la sauvage,
qu'est-ce que fait donc là le juge de paix avec ses bougies et ses petites bandes de rubans de fil?
Ah, il met les scellés. Venez, monsieur Schmuck, vous avez droit d'y assister.
Non, allez-y.
Mais pourquoi les scellés si monsieur est chez lui et si tout est à lui?
Dit la sauvage en faisant du droit à la manière des femmes, qui toutes exécutent le code à leur fantaisie.
Monsieur n'est pas chez lui, madame. Il est chez monsieur Ponce. Tout lui appartiendra sans doute, mais quand on est légataire, on ne peut prendre les choses dont se compose la succession que par ce que nous appelons un envoi en possession. Cet acte émane du tribunal. Or, si les héritiers dépossédés de la succession par la volonté du testateur forment opposition à l'envoi en possession, il y a procès. Et comme on ne sait à qui reviendra la succession, on met toutes les valeurs sous les scellés, et les notaires des héritiers et du légataire procéderont à l'inventaire dans le délai voulu par la loi. Et voilà.
En entendant ce langage pour la première fois de sa vie, Schmuck perdit tout à fait la tête. Il la laissa tomber sur le dossier du fauteuil où il était assis. Il la sentait si lourde qu'il lui fut impossible de la soutenir. Villemot alla causer avec le greffier et le juge de paix, et assista, avec le sang-froid des praticiens, à l'apposition des scellés, qui, lorsque aucun héritier n'est là, ne va pas sans quelque lazie et sans observation sur les choses qu'on enferme ainsi, jusqu'au jour du partage. Enfin, les quatre gens de loi fermèrent le salon et rentrèrent dans la salle à manger, où le greffier se transporta. Schmuck regarda faire machinalement cette opération, qui consiste à sceller du cachet de la justice de paix un ruban de fil sur chaque ventail des portes quand elles sont à deux vantaux, ou à sceller l'ouverture des armoires ou des portes simples en cachetant les deux lèvres de la paroi. Passons à cette chambre, dit Fraisier en désignant la chambre de Schmuck dont la porte donnait dans la salle à manger.
Mais c'est la chambre à monsieur,
dit la sauvage en s'élançant et se mettant entre la porte et les gens de justice.
Voici le bail de l'appartement, dit l'affreux Fraisier. Nous l'avons trouvé dans les papiers, et il n'est pas au nom de messieurs Ponce et Schmuck, il est au nom seul de monsieur Ponce. Cet appartement tout entier appartient à la succession. Et d'ailleurs, dit-il en ouvrant la porte de la chambre de Schmuck, « Tenez, monsieur le juge de paix, elle est pleine de tableaux. »
« En effet, dit le juge de paix qui donna sur le champ gain de cause à Fraisier.
« Attendez, messieurs, dit Villemot, pensez-vous que vous allez mettre à la porte le légataire universel, dont jusqu'à présent la qualité n'est pas contestée ?»«
Si, si, dit Fraisier, nous nous opposons à la délivrance du legs. » Et sous quel prétexte ?
Vous le saurez, mon petit, dit railleusement Fraisier. En ce moment, nous ne nous opposons pas à ce que le légataire retire ce qu'il déclarera être à lui dans cette chambre. Mais elle sera mise sous les scellés, et monsieur ira se loger où bon lui semblera.
Non, dit Villemot, monsieur restera dans sa chambre.
Et comment ?
Je vais vous assigner en référé, reprit Villemot, pour voir dire que nous sommes locataires par moitié de cet appartement, et vous ne nous en chasserez pas. Ôtez les tableaux, distinguez ce qui est au défunt, ce qui est à mon client, mais mon client y restera, mon petit.
Je m'en irai, dit le vieux musicien qui retrouva de l'énergie en écoutant cet affreux débat.
Vous ferez mieux, dit Fraisier. Ce parti vous épargnera des frais, car vous ne gagneriez pas l'incident. Le bail est formel.
Le bail, dit Villemot. C'est une question de bonne foi.
Elle ne se prouvera pas, comme dans les affaires criminelles, par des témoins. Allez-vous vous jeter dans des expertises, des vérifications, des jugements interlocutoires et une procédure?
Non, non, s'écria Schmuck effrayé. Je déménage, je m'en vais.
La vie de Schmuck était celle d'un philosophe, cynique sans le savoir, tant elle était réduite au simple. Il ne possédait que 2 paires de souliers, 1 paire de bottes, 2 habillements complets, 12 chemises, 12 foulards, 12 mouchoirs, 4 gilets et une pipe superbe que Ponce lui avait donnée avec une poche à tabac brodée. Il entra dans la chambre, surexcité par la fièvre de l'indignation. Il y prit toutes ses hardes et les mit sur une chaise.
« Tout ceci est à moi !»
dit-il avec une simplicité digne de Cincinnatus.
« Le piano est aussi à moi !»«
Madame, dit Fraisier à la sauvage, faites-vous aider, emportez-le et mettez-le sur le carré, ce piano. »«
Vous êtes trop dur aussi, dit Villemot à Fraisier.
« Monsieur le juge de paix est maître d'ordonner ce qu'il veut. Il est souverain dans cette matière. »«
Il y a là des valeurs, » dit le greffier en montrant la chambre.
« D'ailleurs, » fit observer le juge de paix, « monsieur sort de bonne volonté. »«
On n'a jamais vu de client pareil, »
dit Villemot indigné, qui se retourna contre Schmuck.
« Vous êtes mou comme une chiffe. »«
Qu'importe où l'on met, » dit Schmuck en sortant.
« Ces hommes ont des visages de tigres. J'en ferai chercher mes pauvres affaires, » dit-il.
« Où, monsieur, va-t-il ? »
« À la crasse de Dieu, »
répondit le légataire universel en faisant un geste sublime d'indifférence.
« Faites-le-moi savoir, » dit Villemot.
« Suis-le, »
dit Fraisier à l'oreille du premier clerc. Madame Cantinet fut constituée gardienne des scellés. Et sur les fonds trouvés, on lui alloua une provision de 50 francs.
« Ça va bien, » dit Fraisier à M. Vitel quand Schmuck fut parti.
« Si vous voulez donner votre démission en ma faveur, allez voir Madame la présidente de Marville, vous vous entendrez avec elle. »«
Vous avez trouvé un homme de beurre, » dit le juge de paix en montrant Schmuck, qui regardait dans la cour une dernière fois les fenêtres de l'appartement.
« Oh, l'affaire est dans le sac, » répondit Fraisier.
« Vous pourrez marier sans crainte votre petite fille à Poulain. Il sera médecin en chef des 15-20. »«
Nous verrons. Adieu, monsieur Fraisier, »
dit le juge de paix avec un air de camaraderie.
« C'est un homme de moyens, » dit le greffier. « Il ira loin le matin. »
Il était alors 11 heures. Le vieil Allemand prit machinalement le chemin qu'il faisait avec Ponce, en pensant à Ponce. Il le voyait sans cesse, il le croyait à ses côtés. Et il arriva devant le théâtre, d'où sortait son ami Topinard, qui venait de nettoyer les quinquets de tous les portants, en pensant à la tyrannie de son directeur.
« Ah, voilà mon affaire !»
s'écria Schmuck en arrêtant le pauvre gagiste.
« Topinard, « tu as un logement, toi ?»«
Oui, monsieur. »«
Un ménage ?»«
Oui, monsieur. »«
Peux-tu me prendre en pension? Oh, je payerai bien. J'ai 900 francs de rente, et je n'ai pas bien longtemps à vivre. Je ne chaînerai point. Je mange de tout. Mon seul besoin est de fumer ma pipe. Et comme tu es le seul qui ait pleuré ponce avec moi, je t'aime.
Monsieur, ce serait avec bien du plaisir.
Mais d'abord, figurez-vous que M. Gaudissart m'a fichu une perruque soignée.
Une perruque?
Une façon de dire qu'il m'a lavé la tête.
Lavé la tête?
Il m'a grondé de m'être intéressé à vous. Il faudrait donc être bien discret si vous veniez chez moi. Mais je doute que vous y restiez, car vous ne savez pas ce qu'est le ménage d'un pauvre diable comme moi. J'aime mieux le pauvre ménage d'un homme de cœur qui a pleuré ponce, que les Tuileries avec tes hommes à face de tigre. J'ai sort de foire des tigres chez Ponce, qui vont manger tout.
Venez, monsieur, dit le gagiste, et vous verrez. Mais enfin, il y a une soupente. Consultons madame Topinard.